Chapitre 2. Vive Nef. Le serpent avançait sans effort dans le sillage du navire. Son corps écailleux luisait comme celui d'un dauphin, mais d'un bleu plus irisé. La tête qu'il levait au-dessus de l'eau était bordée de piquants agressifs et de barbillons qui rappelaient ceux d'un poisson rat. Ses yeux croisèrent ceux de Brachen et s'agrandirent comme ceux d'une femme qui fait la coquette. Puis la gueule de la créature s'ouvrit tout grand, rouge vif et muni de plusieurs rangées de crocs incurvés vers l'intérieur. Béante, elle était assez vaste pour qu'un homme s'y tînt debout. Les barbillons se raidirent soudain autour de la tête du serpent, crinière léonine de dard empoisonné. La gueule rouge fonça sur lui pour l'engloutir. Les ténèbres entouraient Brachen, et il sentit la puanteur de charogne froide de la gueule de la créature. Il se rejeta éperdument en arrière en poussant un cri inarticulé. Sa main se posa sur du bois et aussitôt le soulagement l'envahit. Ce n'était qu'un cauchemar. Il prit une inspiration tremblante, puis écouta les sons familiers du navire, les craquements des membrures de la vivacia, la respiration des autres matelots endormis et le clapotis de l'eau contre la coque. Au-dessus de sa tête, il entendit le bruit des pas nus de quelqu'un qui se précipitait pour répondre à un ordre. Tout était normal, tout allait bien. Il s'emplit les poumons de l'air lourd d'odeur de goudron des membrures, fumée d'hommes ayant vécu longtemps dans des quartiers exigus et sous-jacentes, discrètes comme le parfum d'une femme, fragrance épicée de leur chargement. Il s'étira en poussant le plus loin possible ses épaules et ses pieds contre les bords étroits de sa couchette de bois, puis se renfouit dans ses couvertures. Il n'était de quart que dans plusieurs heures, et s'il ne dormait pas maintenant, il le regretterait plus tard. Il ferma les yeux dans l'obscurité du gaillard d'avant, mais les rouvrit au bout d'un moment. Brachen sentait son rêve rôder juste sous la surface du sommeil, en attendant de s'emparer à nouveau de lui. Il poussa un juron étouffé. Il avait besoin de dormir, mais il préférait ne pas se reposer s'il ne faisait que retomber dans les abîmes du rêve au serpent. Le songe récurrent était désormais presque plus réel que le souvenir et venait le troubler aux moments les plus inattendus, en général quand il devait prendre une grande décision. Dans ces périodes, le rêve jaillissait des profondeurs de son sommeil pour planter ses longs crocs dans son âme et tenter de l'entraîner dans les abysses. Il avait beau être adulte, aussi bon marin que tous ceux qu'il avait côtoyés et meilleur que les 9/10 d'entre eux, quand le cauchemar le saisissait, il régressait jusqu'à son enfance, à l'époque où chacun et lui-même le dédaignaient. Il s'efforça de déterminer ce qui le troublait le plus. Son capitaine le méprisait. C'était exact. Mais Brachen n'en était pas moins bon marin pour autant. Il avait été second du navire avec le capitaine Vestrit, auquel il avait démontré sa valeur. Quand Vestrit était tombé malade, Brachen avait osé espérer qu'on lui confierait le commandement de la vivacia, mais le vieux marchand l'avait remise à son beau-fils, Kyle Havre. Bah, la famille passait avant tout, et Brachen pouvait accepter ce qui s'était passé. Mais alors le capitaine Havre avait usé de son droit de choisir son propre second, et il ne s'agissait pas de Brachen Trell. Néanmoins, on ne pouvait blâmer le nouveau capitaine de ce rude coup, et tous les matelots du navire, non, tous les marins de Terville, le savaient pertinemment. Il n'y avait pas de honte à avoir. Kyle désirait simplement choisir lui-même son second. Brachen, après réflexion, avait jugé préférable de servir comme lieutenant sur la vivacia que comme second à bord de n'importe quel autre vaisseau. Il avait pris lui-même sa décision et ne pouvait en faire reproche à personne d'autre qu'à lui-même. Même après qu'ils eurent quitté le port et que le capitaine Havre eut tardivement décidé de nommer lui-même son lieutenant, ce qui avait encore fait descendre Brachen d'un cran, le marin avait serré les dents et obéi à son capitaine. Mais malgré les années passées à bord de la vivacia et la gratitude qu'il éprouvait pour Ephron Vestrit, il pressentait que ce serait le dernier voyage qu'il ferait sur le navire. Le capitaine Havre ne lui avait pas caché qu'en tant que membre d'équipage, il n'était ni bienvenu ni respecté. Durant la dernière étape du voyage, rien de ce qu'il faisait ne satisfaisait le capitaine. S'il remarquait une corvée à effectuer et mettait des hommes à l'œuvre, il outrepassait son autorité. S'il se contentait d'exécuter les tâches que son rôle lui assignait, ce n'était qu'un imbécile doublé d'un tir au flanc. Chaque jour passant, Terrilville se rapprochait, mais Havre se montrait aussi plus désagréable. Quand il s'amarrait au port d'attache et si Vestrit n'était pas prêt à reprendre le commandement, Brachen descendrait du pont de la Vivacia pour la dernière fois. Cette pensée lui serrait le cœur. Mais il se rappelait alors qu'il existait d'autres navires, dont certains excellents, et Brachen jouissait désormais d'une bonne réputation. Le temps était passé où, débutant, il avait dû accepter n'importe quelle place à bord du premier rafio venu. À l'époque, survivre à un voyage était tout ce qui comptait. Cette première sortie, cette première traversée et le cauchemar étaient intimement liés dans son esprit. Il avait 14 ans la première fois qu'il avait vu un serpent de mer. C'était 10 longues années plus tôt et il était novice dans le métier. Il y avait moins de 3 semaines qu'il servait à bord de son premier navire, un sabot chalcédien qui roulait bord sur bord et se nommait l'Embrun. Même sur une mer d'huile, le bateau se déplaçait avec la grâce d'une femme enceinte en train de pousser une brouette et, par une mer de derrière, nul ne pouvait prédire où allait se trouver le pont l'instant suivant. Brachen avait eu le mal de mer, et mal tout court aussi, à la fois à cause du travail auquel il n'était pas habitué et d'une raclée bien méritée que le second lui avait flanquée la veille. Il était fâché aussi, car dans le noir, Farcé, le visqueux, était venu s'accroupir près de lui pendant qu'il dormait dans le coq-rond avant pour lui offrir quelques paroles de compassion au sujet de ses meurtrissures, puis passer une main tâtonnante sous sa couverture. Brachen avait rembarré Farcé, mais non sans humiliation. Le marin pansu avait une puissante musculature sous sa couche de lard et il avait longuement tripoté le jeune garçon qui avait essayé de se défendre à coups de poing et en s'éloignant avec force tortillement. Aucun des autres marins qui dormaient dans le coqueron n'avait seulement frémi, encore moins proposé de lui venir en aide. Il n'était pas populaire auprès des autres matelots, car il manquait de cicatrices sur le corps et son langage était trop châtié pour eux. L'étudiant l'avait-il surnommé, sans se douter à quel point ils avaient touché juste et à quel point il en souffrait. Il savait qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Il ne connaissait pas le métier, il ignorait comment le pratiquer, et un matelot de ce genre à bord d'un navire est un matelot qui provoque des accidents mortels. Aussi, quand il eut fui le coqueron avant et Farcé, il se rendit sur la dunette où il s'assit, les genoux sous le menton, enveloppé dans sa couverture, et se mit à renifler. L'école, les maîtres et les leçons interminables qui lui avaient paru si insupportables avaient désormais pour lui l'attrait du chant des sirènes, et lui rappelait des lits moelleux, des repas chauds et des heures qui n'appartenaient qu'à lui seul. Sur l'Embrun, si on le surprenait à ne rien faire, il recevait un coup de fouet. Même en cet instant, si le second le rencontrait là, il lui donnerait l'ordre de redescendre ou une tâche à accomplir. Il aurait dû essayer de dormir, il le savait, mais non. Il contemplait l'eau huileuse qui se soulevait dans leur sillage et sentait une agitation similaire dans l'estomac. Il aurait encore vomi s'il lui était resté quelque chose dans le ventre. Il appuya son front sur le bastingage et s'efforça de capter un souffle d'air qui n'eût pas un relent de goudron ni d'eau saline. C'est alors qu'il regardait l'eau noire et brillante qui s'éloignait de l'étrave en roulant qu'il envisagea une autre possibilité. Il n'y avait jamais pensé jusque-là, mais à présent elle l'attirait, simple et logique, se laisser glisser dans l'eau. Quelques minutes désagréables, et puis tout serait fini. Il n'aurait plus jamais de compte à rendre à quiconque. Il ne sentirait plus jamais le coup de cordage sur son flanc. Il n'éprouverait plus ni humiliation, ni colère impuissante, ni impression de stupidité. Et mieux que tout, sa décision ne prendrait qu'un instant, et tout serait dit. Pas de tourment de l'âme, pas de prière pour s'en retenir. Il lui suffisait de trouver une seule seconde de détermination. Il se leva et se pencha par-dessus le bastingage en cherchant au fond de lui-même cette force qui lui permettrait de prendre en main son propre sort. Mais alors qu'il inhalait profondément afin de se donner la volonté de se jeter par-dessus bord, il vit le serpent. Il glissait le long du navire, silencieux comme le temps, son grand organisme sinueux dissimulé par le bourrelet du sillage du navire. Le mur de son corps suivait à la perfection l'arc de l'eau déplacée. Sans la lune qui avait trahi un instant un flanc aux écailles scintillantes, Brashen ne se serait jamais douté de la présence de la créature. Le souffle se bloqua dans la poitrine de Brashen, dur et douloureux. Il avait envie de crier à la cantonade ce qu'il avait vu, d'appeler le second quart pour confirmer ses dires. À l'époque, apercevoir des serpents était rare, et beaucoup de terriens affirmaient qu'il ne s'agissait que de contes de matelots. Mais Brashen savait aussi ce que les marins disaient des grands serpents. Celui qui en voit un voit sa propre mort. Avec une brutale certitude, Brashen comprit que si quelqu'un apprenait la vision qu'il avait eue, l'équipage y verrait un mauvais présage pour le navire tout entier, et il n'y aurait qu'un seul moyen de contrer une telle malchance. Peu après, Brashen dégringolerait du haut d'une vergue parce qu'un marin ne tendait pas assez la toile battante. Il tomberait dans un panneau ouvert et se romprait le cou. Ou bien il disparaîtrait purement et simplement pendant un long quart. Alors qu'un instant auparavant, il jouait avec l'idée de suicide, Brashen eut soudain la certitude qu'il ne voulait pas mourir, ni de sa propre main, ni de celle d'un autre. Il désirait survivre à ce voyage trois fois maudit, retourner à terre et se débrouiller pour retrouver son ancienne existence. Il irait voir son père, il ramperait devant lui et supplierait comme il n'avait jamais fait auparavant, et on le réintégrerait dans la famille. Peut-être perdrait-il sa place d'héritier de la fortune des Trelles, mais cela lui était égal. Qu'elle revienne à ses ruines. Brashen se satisferait amplement de la part d'un puits né. Il cesserait de jouer, il cesserait de boire, il cesserait de prendre de la sindine. Il se plierait à tous les désirs de son père et de son grand-père. Il s'accrochait soudain à la vie aussi fort que ses mains couvertes d'ampoules s'agrippaient au bastingage, tandis qu'il regardait le cylindre de chair écailleuse glisser sans effort dans le sillage du navire. Alors était venu le pire, ce qui restait le pire dans ses cauchemars. Le serpent avait senti sa défaite. Par quelque sens inconnu, il avait compris que Brashen ne succomberait pas à son artifice. Le jeune garçon, avec le même saisissement que quand il avait senti la main de Farcée sur son entrejambe, sut alors que sa volonté de suicide ne venait pas de lui, mais de la suggestion du serpent. D'une torsion, l'animal s'écarta du sillage qui le dissimulait pour exposer à la vue de Brashen toute la taille de son corps sinueux. Il faisait la moitié de la longueur de l'embrun et brillait de couleurs scintillantes. Il se déplaçait sans effort, comme si le navire le tirait dans l'eau. Il n'avait pas la tête plate et triangulaire d'un serpent de terre, mais bombé, le front courbe comme celui d'un cheval, avec des yeux immenses de part et d'autre du crâne. Des piquants toxiques pendaient sous sa mâchoire. Soudain, la créature roula de côté dans l'eau, exposant ses écailles ventrales aux teintes pâles pour poser sur Brashen le regard d'un grand œil. C'est ce regard qui avait épouvanté le jeune garçon, l'avait fait s'écarter brusquement du bastingage et s'enfuir jusqu'au cocheron avant. C'est ce regard qui le tirait encore en sursaut de ses cauchemars. Immense, dépourvu de sourcils et de cils, cet œil bleu et rond qui le regardait d'un air moqueur, avec quelque chose d'horriblement humain. Althea mourait d'envie d'un bain d'eau douce. Comme elle gravissait péniblement l'escalier des cabines, elle se sentait des courbatures dans tous les muscles et l'air dense de la cale arrière lui donnait la migraine. Mais enfin, elle avait achevé sa tâche. Elle allait se rendre à la cabine, se décrasser avec une serviette mouillée, changer de vêtements et peut-être même faire une petite sieste. Ensuite, elle irait affronter Kyle. Il y avait trop longtemps qu'elle remettait ce moment, et plus elle attendait, plus elle se sentait mal à l'aise. Elle dirait ce qu'elle avait à dire et supporterait ce que cela lui vaudrait. Maîtresse Althea!
Elle avait à peine posé le pied sur le pont que Clément vint se planter devant elle.
Le capitaine veut vous voir.
Et le mousse lui fit un grand sourire, moitié chagriné, moitié ravi d'avoir à transmettre une telle nouvelle.
Très bien, Clément,
répondit-elle à mi-voix.
Très bien, répéta l'écho au fond d'elle-même. Pas de décrassage, pas de vêtements propres et pas de sieste avant l'affrontement.
Très bien. Elle prit un moment pour ramener ses cheveux en arrière et renfoncer sa vareuse dans son pantalon. Avant de commencer la tâche qu'elle s'était fixée, c'était sa tenue de travail la plus propre. À présent, sa vareuse en coton grossier lui collait au cou et dans le dos à cause de la transpiration, tandis que son pantalon était maculé d'étoupe et de goudron à force de se frotter dans les confins exigus de la cale. Et elle avait le visage barbouillé aussi, elle le savait. Eh bien, que Kyle jouisse de son avantage.
Elle se baissa comme pour renouer un lacet d'effet, mais plaqua la main sur le bois du pont. L'espace d'un instant, elle ferma les yeux et laissa la force de la vivacia pénétrer en elle par sa paume. « Oh, navire !» murmura-t-elle aussi bas que si elle priait. « Aide-moi à lui résister !»
Puis elle se redressa, sa résolution retrouvée. Comme elle traversait le pont dans la pénombre du crépuscule, aucun regard ne voulut croiser le sien. Tous les marins avaient soudain trouvé une corvée urgente à accomplir, ou bien avaient simplement les yeux tournés ailleurs. Elle se retint de se retourner pour voir si on l'observait par derrière, carra les épaules, releva le menton et se dirigea vers son destin. Elle frappa sèchement à la porte du capitaine et attendit sa réponse revêche. Quand elle l'entendit, elle entra, puis s'arrêta au milieu de la pièce en laissant ses yeux s'accommoder à la lumière jaune de la lanterne. À cet instant, elle fut soudain prise de nostalgie, non pour une maison au bord de la mer, mais pour la pièce telle qu'elle était naguère. Un vertige de souvenirs l'envahit. Les cirés de son père étaient pendus à ce crochet, et l'odeur de son rhum préféré parfumait l'air. Il avait accroché le hamac d'Althea dans ce coin, quand il lui avait permis de vivre sur la vivacia afin de pouvoir mieux la surveiller. Une brusque bouffée de colère la prit devant la pagaille de Kyle, qui dissimulait l'aspect familier et douillet de ses quartiers. Un clou de botte avait laissé toutes sortes d'éraflures sur le plancher poli. Et Fron Vestrit n'avait jamais laissé traîner de cartes et n'aurait jamais toléré la présence d'une chemise sale négligemment jetée sur le dossier du fauteuil. Il ne supportait pas le désordre sur son bateau, et cela incluait ses propres quartiers. Apparemment, son gendre, Kyle, ne partageait pas ses valeurs. Althea enjamba ostensiblement un pantalon étalé à terre pour se présenter devant son capitaine assis à sa table. Kyle fit semblant de ne pas la remarquer et continua d'étudier une notation sur une carte, une notation rédigée de l'écriture précise de son père, comme l'observa Althea. Et elle y puisa quelque énergie alors même qu'elle brûlait de colère à l'idée que Kyle eût accès aux cartes de la famille. Les cartes d'une famille de marchands faisaient partie de ses biens les plus jalousement gardés. Autrement, comment conserver pour soi les trajets les plus rapides pour traverser le passage intérieur et les ports de commerce des villages les moins connus? Néanmoins, Père avait confié ses cartes à Kyle et ce n'était pas à Althea de mettre sa décision en cause. Kyle feignait toujours de ne pas l'avoir vue, mais Althea refusait de mordre à l'hameçon. Muette et patiente, elle ne se laissait pas démonter par l'apparent désintérêt du capitaine. Au bout d'un moment, il finit par lever les yeux vers elle. Leur couleur bleue était aussi différente du calme regard sombre de son père que ses cheveux blonds et indisciplinés l'étaient du catogan lisse et noir du capitaine Vestrit, et une fois de plus, elle se demanda avec dégoût ce qui avait pris sa sœur aînée de désirer un tel homme. Son sang chalcédien transparaissait autant dans ses manières que dans son aspect. Elle s'efforçait d'effacer toute trace de dédain de son visage, mais sa maîtrise de soi s'amenuisait. Il y avait trop longtemps qu'elle était en mer en compagnie de cet homme. Ce dernier voyage avait été interminable. Kyle avait transformé ce qui aurait dû être une simple tournée de 2 mois le long des côtes calcèdes en un trajet long et pénible de 5 mois, plein de haltes inutiles et de traversées tout juste profitables. Althea était convaincue que Kyle s'efforçait ainsi de montrer à son père ce dont un marchand matois était capable. Elle, en tout cas, n'avait pas été impressionnée. À Défense, il avait fait relâche pour acheter des œufs de canard marin en saumure, cargaison toujours délicate, puis s'était arrêté à Pont, le temps de les vendre avant qu'ils ne soient pourris. À Pont, il avait embarqué des balles de coton en quantité suffisante, non seulement pour remplir les cales à ras-bord, mais aussi pour embarrasser en partie le pont du navire. Althea n'avait pu que regarder sans rien dire l'équipage risquer sa vie à grimper sur les lourdes balles, puis un grain tardif était arrivé qui avait trempé et sans doute abîmé cette partie de la cargaison. Althea n'avait même pas demandé à Kyle le montant du profit, si profit il y avait eu, quand il avait fait halte à Durcé pour la vendre aux enchères. Durcé avait été le dernier port où ils avaient fait relâche, et il avait fallu encore une fois déplacer les tonneaux de vin pour une cargaison achetée sur un coup de tête. À présent, en plus des vins et des eaux-de-vie qui constituaient leurs marchandises d'origine, la cale était bourrée de caisses de noix de comme-fer. Kyle avait longuement péroré sur le bon prix qu'elle rapporterait, tant à cause de l'huile odorante de leur noyau que l'on employait pour fabriquer du savon, que de la splendide teinte jaune qu'on pouvait tirer de leur coque. Althea s'était dit que s'il dissertait encore une fois sur le profit supplémentaire que cette cargaison rapporterait au voyage, elle allait l'étrangler. Mais il n'y avait nulle autosatisfaction dans le regard qu'il posa sur elle. Il était froid comme l'eau de mer et scintillant de petites étincelles de colère. Sans sourire ni proposer un siège, il demanda simplement « Que faisiez-vous dans la cale arrière ?» Quelqu'un était allé cafeter au capitaine. Althea conserva une voix ferme. « Je réarrimais la cargaison. » « Tiens donc !» C'était presque une accusation en soi. Mais comme il ne s'agissait pas d'une question, aucune réponse n'était nécessaire. Et Althea demeura parfaitement rigide sous le regard perçant du capitaine. Il s'attendait à ce que, comme Kefria, elle bredouille des explications et des excuses. Elle le savait, mais elle n'était pas sa sœur ni l'épouse de Kyle. Il abattit brutalement la paume sur la table, et bien qu'elle bronchât sous le bruit soudain, elle ne dit toujours rien. Elle l'observa qui espérait un mot d'elle, puis éprouva un étrange sentiment de victoire quand la colère du capitaine éclata. « Avez-vous eu la présomption d'ordonner aux hommes de modifier l'arrimage de la cargaison ?» Elle répondit doucement, d'un ton très calme. « Non, j'ai effectué le travail moi-même. Mon père m'a enseigné qu'à bord d'un navire, chacun doit voir les tâches à exécuter et les exécuter. C'est ce que j'ai fait. » J'ai disposé les tonneaux comme l'aurait fait mon père s'il était parmi nous. Ils sont maintenant arrimés comme l'a toujours été une cargaison de vin depuis que j'ai 10 ans, bondonnés, à l'abri de l'eau de cale, à l'avant comme à l'arrière, et coincés contre les flancs. Ils ne bougeront pas, et s'ils n'ont pas été gâtés à force d'être secoués, on pourra les mettre sur le marché en arrivant à Terrilville. » Les joues de Kyle rougèrent. Et Althea se demanda comment Kefria pouvait supporter un homme dont les joues rougissaient quand il était en colère. Elle se raidit, et quand Kyle répondit, ce fut d'une voix égale mais saccadée dans laquelle on sentait l'envie de hurler. « Votre père n'est pas ici, Althea. C'est tout le problème. Je suis maître à bord de ce navire, et j'ai donné des ordres sur la façon d'arrimer la cargaison. Mais, comme d'habitude, vous avez contremandé mes ordres dans mon dos. Cette interférence entre mon équipage et moi ne peut pas continuer. Vous semez la discorde. » J'ai agi seul, de mon propre chef, répliqua-t-elle à mi-voix. Je n'ai donné aucun ordre à l'équipage. Je n'ai même pas dit un mot de ce que je comptais faire. Je n'ai rien fait pour m'interposer contre l'équipage et vous. Et elle ferma la bouche avant d'en dire davantage. Que ce qui séparait Kyle de ses hommes était son propre manque de savoir-faire. Des marins qui auraient été prêts à donner leur vie pour le capitaine Vestrit parlaient maintenant ouvertement sur le gaillard d'avant de chercher un autre navire la prochaine fois qu'il débarquerait. Kyle risquait d'éparpiller l'équipage trié sur le volet que son père avait passé la dernière décennie à constituer. Kyle paraissait furieux d'être ainsi contredit. « Il suffit que vous ayez agi contre mes ordres. Il n'en faut pas plus pour défier mon autorité. À cause de votre mauvais exemple, l'équipage s'agite et je suis forcé de lui imposer ma discipline. Vous devriez avoir honte de ce que vous lui infligez, mais non, ça vous est bien égal. Vous êtes au-dessus du capitaine. Altea Vestrit est sans doute même au-dessus de ça, le Tout-Puissant. Vous avez affiché devant l'équipage entier votre total irrespect de mes ordres. Si vous étiez un vrai matelot, je ferais un exemple de vous qui prouverait que mes ordres sont les seuls valables sur ce navire. Mais vous n'êtes rien d'autre que la gosse gâtée d'un marchand. Je vais donc vous traiter en tant que tel et épargner la peau de votre échine, mais seulement tant que vous ne me mettrez plus de bâton dans les roues. Prenez cet avertissement au sérieux, fillette. Je suis le maître de ce navire, et ma parole y fait loi. »
Altea ne répondit pas, mais ne détourna pas non plus les yeux. Elle soutint le regard de Kyle en s'efforçant de garder une expression la plus neutre possible. Le rouge s'étendit au front du capitaine, et il prit une inspiration pour récupérer son sang-froid. Ses yeux transpercèrent la jeune fille.
« Et vous ? Qu'êtes-vous, Altea ?»
Elle ne s'attendait pas à une telle question. Les accusations et les remontrances, elle pouvait les traiter par le silence. Mais en l'interrogeant, il exigeait une réponse qui risquait, elle le savait, d'être considérée comme une provocation délibérée. « Tant pis. »«
Je suis la maîtresse de ce navire, » dit-elle avec toute la dignité qu'elle put rassembler. « C'est faux !»
Cette fois, il avait crié, mais il se ressaisit en un instant. Il se pencha sur la table et cracha presque les mots suivants.
« Vous êtes la fille du propriétaire, et même si vous étiez le propriétaire lui-même, ça ne ferait pas la moindre différence. Ce n'est pas lui qui commande le navire, c'est le capitaine. Vous n'êtes pas le capitaine, vous n'êtes pas le second, vous n'êtes même pas un vrai matelot. Tout ce que vous faites à bord, c'est occuper une cabine qui devrait revenir au lieutenant et exécuter les tâches qui vous plaisent. Le propriétaire de ce navire est Ephron Vestrit, votre père. C'est lui qui m'a donné le commandement de la Vivacia. Si vous êtes incapable de me respecter, moi, respectez au moins le choix de votre père.
Si j'avais été plus âgé, c'est moi qui l'aurais choisi. Je connais la Vivacia. C'est moi qui devrais la commander.
À peine eut-elle prononcé ces mots qu'Altea les regretta. Cette expression de ce qu'ils savaient tous les deux exact, c'était l'ouverture que Kyle attendait.
Encore une fois, c'est faux. Vous devriez vous trouver à terre, marié à quelque godelureau aussi gâté que vous. Vous ne possédez pas la moindre notion de la façon de commander un navire. Vous croyez que, parce que votre père vous a laissé jouer au matelot, vous connaissez toutes les ficelles du métier, et vous vous êtes convaincu que vous étiez destiné à commander le navire de votre père? Eh bien, vous vous trompiez. Votre père vous a embarqué uniquement parce qu'il n'avait pas de fils. C'est lui-même qui me l'a révélé, à la naissance de Yémin. Si la Vivacia n'était pas une vive nef qui requiert un membre de la famille à son bord, je n'aurais pas toléré vos prétentions un seul instant. Mais n'oubliez pas ceci. Tout ce qu'il faut au navire, c'est un membre de la famille, et ce n'est pas obligatoirement vous. Si ce bateau exige un Vestrit à bord, il peut en embarquer un qui s'appellera Havre. Dans les veines de mes fils coule autant du sang de votre sœur que du mien, et ils sont autant Vestrit que Havre. La prochaine fois que ce navire quittera le port de Terrilville, un de mes garçons prendra votre place à son bord. Vous, vous resterez à terre. »
Altea se sentait devenue blême. Cet homme n'avait aucune idée de ce qu'il lui disait, du péril de sa menace, et cela prouvait seulement qu'il ne possédait pas de vraie notion de ce qu'était une vive nef. Jamais on n'aurait dû lui confier l'autorité à bord de la Vivacia. Si seulement le père d'Althea avait été en meilleure santé, il s'en serait rendu compte. Son désespoir et son esprit de défi avaient dû transparaître sur ses traits, car la bouche de Kyle Havre se fit dure. Althea se demanda s'il réprimait un sourire en ajoutant « Vous êtes confinés dans vos quartiers pour le reste du voyage. À présent, sortez !» Elle ne bougea pas. Autant tout déballer à présent, maintenant que la situation était claire. « Vous avez déclaré que je n'étais même pas matelot à bord de ce navire. Très bien. Dans ce cas, s'il en est ainsi, je ne suis pas à vos ordres. Et j'ignore d'où vous tirez l'idée farfelue que vous aurez autorité sur la Vivacia lors de son prochain voyage. À notre retour à Terreville, je m'attends que mon père se sera rétabli et reprendra son commandement. » Et le conservera jusqu'au jour où le navire et son commandement seront à moi. » Il posa sur elle un regard impassible. « En êtes-vous persuadée, Althea ?» Les joues de la jeune fille blêmirent de haine, car elle avait cru un instant qu'il se moquait de sa confiance dans le rétablissement de son père. Mais il poursuivit. « Votre père est un bon capitaine, et quand il apprendra vos frasques, à contremander mes ordres, à semer la zizanie parmi les hommes, à me ridiculiser dans mon dos.
À vous ridiculiser ? »
fit Althea effarée. Kyle eut un grognement dédaigneux. Croyez-vous pouvoir vous enivrer à en perdre la tête et parler à tort et à travers d'endurcer sans que ça me revienne aux oreilles ? Cela ne fait que prouver votre sottise. Frénétiquement, Althea fouilla ses souvenirs erratiques de Durcé. Elle s'était enivrée, certes, mais une fois seulement, et elle se rappelait vaguement s'être plainte de sa situation à certains compagnons de bord. Mais qui ? Leur visage était brouillé dans sa mémoire. Cependant, c'était Brachen qui l'avait réprimandée. Elle en était sûre, en osant lui ordonner de fermer son écoutille et de garder pour elle ses problèmes privés. Elle ne se souvenait plus exactement ce qu'elle avait répondu. Mais à présent, elle avait une idée assez précise de celui qui avait cancané. « Alors, quelle histoire vous a raconté Brachen ? » demanda-t-elle d'un ton aussi calme que possible. Dieu des poissons, qu'avait-elle bien pu dire ? Si cela avait un rapport avec les affaires de la famille et que Kyle rapporte ses déclarations à la maison...
« Il ne s'agissait pas de Brachen, mais cela confirme mon opinion de lui. » Il est prêt à vous écouter dégoiser des horreurs. En voilà un qui vous ressemble, un fils de marchand qui joue au matelot. J'ignore pourquoi votre père l'a accepté à bord de ce navire, sinon peut-être pour en faire un parti pour vous. Eh bien, si j'ai les coups des franches, je le laisserai à terre à Terrilleville, lui aussi. Ainsi, vous pourrez continuer à jouir de votre compagnie mutuelle. C'est probablement ce qui se rapprochera le plus d'un mari pour vous. Vous avez intérêt à le harponner, tant que vous en avez l'occasion. »
Kyle se laissa aller contre le dossier de son fauteuil. Il paraissait s'amuser beaucoup du mutisme bouleversé qu'Althea observait devant ses conclusions. Quand il reprit la parole, ce fut d'une voix douce où perçait la satisfaction. « Eh bien, petite sœur, on dirait que vous n'appréciez pas mes paroles. » Vous comprendrez donc peut-être ma réaction quand le charpentier du bord, un peu éméché par le grog, est revenu en racontant à qui voulait l'entendre que, d'après vous, j'avais épousé votre sœur dans le seul but de m'approprier le navire familial, parce qu'autrement, un homme comme moi n'aurait jamais l'occasion de commander une vive nef. » Sa voix jusque-là posée était devenue rauque de fureur. Althea reconnut ses propres paroles. Elle devait être beaucoup plus ivre qu'elle ne le croyait pour exprimer tout haut de telles pensées. « Tu peux te montrer lâche ou menteuse, » se dit-elle. « Tu peux accepter ces propos comme les tiens tout en feignant de les dédaigner ou bien mentir et prétendre ne les avoir jamais prononcés. » Mais malgré tout ce que Kyle pouvait affirmer sur elle, elle était la fille d'Ephron Vestrit. Elle rassembla son courage.
« C'est vrai. Je l'ai dit, c'est la vérité. »
« Alors, en quoi la vérité vous ridiculise-t-elle »
Kyle se dressa brusquement et contourna la table. Il était grand. Et alors même qu'Althea commençait à battre en retraite, il lui asséna une gifle qui la fit reculer en chancelant. Elle se retint à une cloison et demeura debout par pure volonté. Kyle, le visage blême, retourna s'asseoir dans son fauteuil. Trop loin. Ils avaient été tous deux trop loin, comme Althea l'avait toujours redouté. L'avait-il craint, lui aussi? Il paraissait trembler aussi fort qu'elle.
« Ce n'était pas pour moi !» dit-il d'une voix âpre. « C'était pour votre sœur. Vous vous enivrez comme un soldat dans une taverne publique et vous la traitez pratiquement de putain. Vous en rendez-vous compte? Croyez-vous vraiment qu'elle aurait eu besoin pour attirer un homme de lui faire miroiter la possibilité de commander une vive nef? C'est une épouse dont tout homme serait fier, même s'il n'y avait pas une pièce de cuivre attachée à son nom.
Ce n'est pas votre cas. Vous, il faudra vous acheter un mari, et vous feriez bien de prier les dieux que les affaires de votre famille s'améliorent, car il vous faudrait offrir la moitié de la ville en dot avant qu'un homme digne de ce nom pose le regard sur vous. Regagnez vos quartiers avant que ma colère n'éclate vraiment. Dehors !»
Elle voulut se retourner pour s'avancer dignement vers la porte, mais Kyle se leva, fit le tour de la table et la propulsa d'une brutale poussée vers la sortie. Alors qu'elle quittait les quartiers du capitaine, elle vit Clément qui ponçait diligemment un bastingage proche. Ce garçon avait des oreilles de renard. Il avait dû tout entendre.
Bah, elle n'avait rien fait ni dit dont elle pût avoir honte, tandis que Kyle ne pouvait sans doute pas en affirmer autant.
La tête haute, elle se dirigea vers l'arrière pour retrouver la petite cabine qui était la sienne depuis qu'elle avait 12 ans. Alors qu'elle refermait la porte derrière elle, elle prit soudain la pleine mesure de la menace de Kyle de la débarquer.
Elle était chez elle ici. Il ne pouvait pas l'obliger à s'en aller de chez elle tout de même. Elle adorait cette pièce depuis toujours. Et elle n'oublierait jamais le sentiment de possession de droit qu'il avait saisi la première fois qu'elle y était entrée et qu'elle avait déposé son sac de marin sur la couchette. Cela s'était passé presque 7 ans plus tôt. Et pour elle, cette cabine symbolisait le logis et la sécurité. Elle grimpa sur la couchette et s'y roula en boule, le visage contre la cloison. La joue lui cuisait, mais elle refusait d'y porter la main. Il l'avait frappée. Une meurtrissure apparaisse et s'assombrisse. Peut-être alors, quand elle rentrerait à la maison, sa sœur et ses parents prendraient-ils conscience de la vermine qu'ils avaient accueillie dans leur sein quand ils avaient uni Kefria à Kyle Havre. Il n'était même pas d'origine marchande. C'était un cornio, moitié chalcédien, moitié rat des quais. S'il n'avait pas épousé la sœur d'Althea, il n'aurait rien aujourd'hui, rien. Ce n'était qu'une crotte de chien, et il n'était pas digne de ses larmes, seulement de sa colère. Seulement de sa colère.
Au bout d'un moment, les battements désordonnés de son cœur se calmèrent. Sa main caressa distraitement le cache-nez que Nana lui avait tricoté. Puis elle se retourna pour regarder par le hublot de l'autre côté de la cabine. La mer grise et illimitée en bas, le vaste ciel dans le tiers supérieur. C'était la vision du monde qu'elle préférait, toujours la même et pourtant toujours changeante. Quittant le hublot, son regard se promena sur la cabine. Le petit bureau fermement boulonné à la cloison, avec son rebord pour retenir les papiers par gros temps, son étagère à livres et à manuscrits était fixé tout à côté, muni d'une barrière pour empêcher le contenu d'en tomber fût-ce dans les pierres grains. Elle disposait même d'une petite table pliante et d'une sélection de cartes, car son père avait exigé qu'elle apprenne à naviguer et même à relever la position du navire. Les instruments destinés à cet usage étaient enfermés dans une petite boîte capitonnée qui s'accrochait à la paroi. Ses vêtements de mer pendaient à leur crochet. La seule décoration de la pièce était un tableau de la Vivacia, qu'elle avait commandé personnellement. L'auteur en était Jared Pappas, ce qui en soi aurait suffi à donner de la valeur à la peinture, mais c'était son sujet qui le rendait cher au cœur d'Althea. Telle qu'elle était représentée, La vivacia avait les voiles gonflées de vent et sa proue tranchait proprement les vagues. Althea tendit les bras vers le haut et appuya la paume de ses mains sur les membrures de la vivacia. Elle sentit la quasi-vie frémir en elle. Il ne s'agissait pas seulement des vibrations du bois du navire qui fendait l'eau, du choc des pieds des matelots sur les ponts, ni des cris des mouettes qui chantaient en réponse aux ordres du second. C'était la vie de la vivacia elle-même, tout près de s'éveiller. La vivacia était une vive nef. 63 ans plus tôt, sa quille avait été déposée, et cette longue pièce d'un seul tenant était en bois sorcier. Sa figure de proue était faite du même matériau, arraché au même grand arbre, tout comme les planches de sa coque. C'était l'arrière-grand-mère, Vestrit, qui avait commandé la fabrication du navire et signé le droit de nantissement contre les biens de la famille, droit que le père d'Althea, Ephron, payait toujours. Cela se passait en une époque où les femmes pouvaient encore se permettre de telles attitudes, sans soulever le moindre scandale, avant que la coutume stupide venue de Chalcède, voulant confier étalage de sa fortune en maintenant son épouse dans l'oisiveté, eût pris racine à Terrilville. Cette arrière-grand-mère, comme le père d'Althea le répétait souvent avec affection, n'avait jamais laissé l'opinion d'autrui s'immiscer entre son navire et elle. Elle avait commandé la vivacia 35 ans durant, au-delà de son 70e anniversaire. Et puis, par une étouffante journée d'été, elle s'était simplement assise sur le gaillard d'avant et avait déclaré « Ça suffit, garçon. » Et elle était morte. Bon papa avait alors pris le commandement du navire. Althea se souvenait vaguement de lui. C'était un homme sombre, fort comme un taureau, la voix toujours pleine du rugissement de la mer, même quand il se trouvait à la maison. Il était mort 14 ans plus tôt, sur le pont de la vivacia. Il avait 62 ans et Althea 4 à peine, mais elle s'était tenue à côté de sa civière avec le reste de la famille Vestrit, avait assisté à son trépas et avait perçu le vague frémissement qui avait traversé la vivacia à cet instant. Elle avait compris que ce frémissement exprimait à la fois du regret et un accueil. La vivacia pleurait son hardi capitaine, mais elle recevait avec plaisir le flux de son âne-ma dans ses membrures. Par sa mort, le capitaine l'avait menée un peu plus près de l'éveil. Et aujourd'hui, seul manquait la mort du père d'Althea pour achever cet éveil. Comme toujours lorsqu'elle y songeait, la jeune fille se sentit en proie à des émotions contradictoires. La mort de son père l'emplissait à l'avance de crainte et d'horreur. Elle ne se remettrait jamais de sa disparition. Et s'il passait avant qu'elle fût majeure, et que l'autorité revînt à sa mère et à Kyle? En hâte, elle repoussa cette idée en touchant le bois de la vivacia pour se protéger de la malchance que de si tristes pensées pouvaient lui apporter. Pourtant, elle ne pouvait nier attendre avec impatience l'éveil de la vivacia. Combien d'heures n'avait-elle pas passé, allongée sur le beau pré, aussi près de la figure de proue que possible, alors que le navire labourait la mer, à regarder les paupières de bois qui fermaient les yeux de la vivacia? La sculpture n'était pas en bois peint comme la figure de proue d'un navire ordinaire. Elle était en bois sorcier. Elle était peinte actuellement, c'était vrai, mais à l'instant de la mort d'Ephron Vestrit sur ses ponts, la dorure de ses cheveux en cascade se transformerait en boucle d'or et ses hautes pommettes perdraient leur maquillage pour rayonner du rose de la vie. Elle aurait les yeux verts, Althea en était sûre. Naturellement, tout le monde affirmait impossible de connaître la couleur des yeux d'une vive nef avant que ses paupières s'ouvrent à la suite de la mort de 3 générations. Mais Althea en était certaine. La vivacia aurait les yeux aussi verts que la laitue de mer. Déjà, rien qu'à songer à l'effet de ses yeux d'émeraude en train de s'ouvrir, Althea ne put s'empêcher de sourire. Mais son sourire s'effaça au souvenir des paroles de Kyle. Ses projets étaient évidents. Débarquer Althea et la remplacer par un de ses propres fils. Et quand Ephron mourrait, il tenterait de conserver le commandement du navire. Il maintiendrait son fils à bord comme gage de la présence d'un Vestrit afin de satisfaire le navire. Mais c'était sûrement une menace en l'air. Aucun des deux garçons ne convenait. L'un était trop jeune, l'autre était destiné à la prêtrise. Althea n'avait rien contre ses neveux,
Mais même s'il n'avait pas été trop petit pour vivre à bord d'un navire, Seldon avait l'âme d'un fermier. Quant à Yémin, Kefria l'avait donné au prêtre des années plus tôt. Yémin ne s'intéressait pas à la vivacia et ne connaissait rien à la navigation. Kefria y avait veillé. Et puis, il devait devenir prêtre. Kyle n'en avait jamais été enthousiasmé, mais la dernière fois qu'Althea avait vu le garçon, il lui était apparu évident qu'il ferait un bon prêtre. Petit, les membres grêles, le regard toujours lointain, un vague sourire aux lèvres, la tête pleine de « ça », tel était Yémin. Cependant, Kyle se soucierait comme d'une guigne des vœux du garçon et n'hésiterait même pas à revenir sur le don de son fils aîné à ça. Les enfants qu'il avait eus de Kefria n'étaient pour lui que des instruments, le sang dont il avait besoin pour obtenir la propriété du navire. Eh bien, il s'était un peu trop démasqué cette fois-ci. Quand il regagnerait le port, Althea ferait en sorte que son père soit mis au courant des manigances de Kyle et des mauvais traitements qu'elle avait dû subir de sa part. Peut-être alors son père reconsidérerait-il la décision selon laquelle Althea était trop jeune pour commander le navire ? Que Kyle aille se chercher un morceau de bois mort à promener sur les mers et remette la vivacia aux bons soins d'Althea, où elle trouverait abri et respect. Par les paumes de ses mains, elle eut la certitude de sentir une réaction du bateau. La vivacia était à elle. En dépit de tous les coups bas que préparait Kyle, il ne la posséderait jamais. Elle s'agita de nouveau sur sa couchette, désormais trop petite pour elle. Il fallait qu'elle demande au charpentier de venir refaire la cabine. Si elle accrochait la couchette à la cloison sous le hublot, elle pourrait y ajouter une main en longueur. Ce ne serait pas grand-chose, mais ce serait mieux que rien. Son bureau irait contre ce mur. Soudain, elle fronça les sourcils en se rappelant que le charpentier l'avait trahi. Bah, de toute façon, elle ne l'avait jamais apprécié, et c'était réciproque. Elle aurait dû se douter que si quelqu'un devait apporter le trouble entre Kyle et elle en rapportant, c'était bien lui. Et elle aurait dû savoir aussi qu'il ne s'agissait pas de Brachen. Il n'était pas sournois, quoi que pût en penser Kyle. Non, Brachen avait dit à Althea, bien en face et sans prendre de gants, qu'elle n'était qu'une petite morveuse, fauteuse de trouble, et qu'il lui saurait gré de ne pas l'approcher pendant son quart. Les souvenirs revenaient toujours plus nombreux de cette fameuse soirée à la taverne. Il lui avait frotté les oreilles comme à un novice, en l'avertissant qu'elle n'avait pas à critiquer le capitaine devant l'équipage, ni à évoquer ses affaires de famille en public. À cela, elle avait su répondre « Tout le monde n'a pas honte de parler de sa famille, Brachen Trell ?» Elle n'avait rien d'autre à ajouter. Elle s'était levée de table et s'en était allée. Qu'il rumine ça et qu'il s'en étouffe, s'était-elle dit. Elle connaissait l'histoire de Brachen, et elle aurait gagé que c'était valable pour la moitié de l'équipage, même si personne n'osait en discuter devant lui. Le père d'Althea l'avait secouru alors qu'il était déjà sur le seuil de la prison pour dette. La seule façon d'en sortir aurait été de signer un contrat d'engagement, car chacun savait que sa famille ne supportait plus ses manières de propre à rien. Or, nul n'ignorait ce qui attendait celui qui avait signé de force un contrat d'apprentissage. Sans Ephron Vestrit, il aurait sans doute fini en Calcède, le visage couvert de tatouages d'esclaves. Et pourtant, il avait eu l'audace de s'exprimer ainsi devant Althea. Ce Brachen pensait beaucoup trop à lui-même, comme la plupart des Trelles. Au bal des moissons des marchands, son cadet avait eu le front de demander deux fois à Althea de danser avec lui. Même si Serwin était aujourd'hui l'héritier Trell, il n'aurait pas dû se montrer si hardi. Althea eut un petit sourire en revoyant la tête qu'il avait faite quand elle avait refusé froidement. Il avait poliment accepté la rebuffade, mais toute son éducation n'avait pas suffi à empêcher le rouge de lui monter aux joues. Serwin avait des manières plus raffinées que Brachen, mais il était mince et ne possédait pas la musculature de son frère. D'un autre côté, le cadet Trell avait eu le bon sens de ne rejeter ni le nom de sa famille ni sa fortune, à la différence de Brachen. Althea l'écarta de ses pensées. Elle éprouva un léger remords à l'idée que Kyle allait sans doute se débarrasser de lui à la fin du voyage, mais elle ne serait pas particulièrement attristée de le voir partir. En revanche, le sentiment de son père sur l'affaire était une autre paire de manches. Il avait toujours plus ou moins pris Brachen sous son aile, du moins à terre. La plupart des familles de marchands avaient cessé de le recevoir quand les Trelles l'avaient déshérité. Mais Ephron Westrit avait déclaré en haussant les épaules
« Héritier ou non, c'est un bon marin. Et un marin de mon équipage qui n'a pas sa place chez moi n'a pas sa place sur mon pont. »
Cependant, Brachen ne venait pas souvent à la maison, ni même ne partageait leur table. Et en mer, ses rapports avec le père d'Althea restaient strictement ceux d'un matelot avec son capitaine. Ephron n'avait dû évoquer que devant sa fille son admiration pour le sens pratique qui avait permis au garçon de se reprendre et de faire quelque chose de lui-même, et elle n'en dirait rien à Kyle. Qu'il commette encore une erreur devant son père, que son père constate tous les changements qu'il apporterait sur la vivacia si on ne le retenait pas. Elle était fort tentée de monter sur le pont rien que pour braver l'ordre de Kyle.
Que pourrait-il y faire? Ordonner à un matelot de la reconduire dans sa cabine?
Il n'y avait pas un homme sur le bateau qui oserait porter la main sur elle, et ce n'était pas seulement parce qu'elle s'appelait Althea Westrit. La plupart l'appréciaient et la respectaient, et cela, elle l'avait gagné toute seule, elle ne le devait pas à son nom. Quoi qu'en dit Kyle, elle connaissait le navire mieux qu'aucun marin de son bord. Elle le connaissait comme seul peut connaître un bateau, un enfant qui a grandi à bord. Elle savait des endroits, des cales où un homme adulte ne pouvait s'introduire. Elle avait escaladé les mâts et s'était balancée sur les gréements comme d'autres enfants s'amusent dans les arbres. Même s'il ne lui avait pas été attribué de quart régulier, elle connaissait le travail de chaque marin et elle était capable de l'exécuter. Elle n'était pas en mesure d'épicer aussi vite que leur meilleur gabier, mais elle était capable de faire une belle épissure bien solide, de couper et de coudre de la toile aussi bien que n'importe quel matelot. Elle se doutait bien que telle était l'intention de son père en la prenant à son bord. Lui faire apprendre le navire et toutes les tâches nécessaires pour le faire naviguer. Kyle, dans son mépris, pouvait bien ne la considérer que comme la fille de la famille, mais elle ne craignait pas que son père la plaçât en dessous des trois fils de la famille emportés par la peste sanguine. Elle n'était pas le substitut d'un fils. Elle devait devenir l'héritière d'Ephron Westrit. Elle savait pouvoir braver l'ordre de Kyle sans encourir le moindre risque. Mais il s'en prendrait alors sans doute aux matelots et les punirait de n'avoir pas obéi aussitôt à ses instructions de la confiner dans sa cabine. Non, elle ne leur imposerait pas ce sort. La dispute ne regardait que Kyle et elle la réglerait toute seule. Car malgré ce qu'il avait affirmé, elle ne pensait pas qu'à elle-même. La vivacia méritait un bon équipage, et en dehors de Kyle, son père avait bien choisi chacun de ses éléments. Il les payait bien. Plus que le taux habituel, pour conserver à son bord des marins capables et prêts à obéir. Althea ne donnerait pas l'occasion à Kyle de débarquer aucun d'entre eux. À nouveau, elle eut un élancement de remords à l'idée d'avoir joué un rôle dans le sort malheureux de Brachen. Elle s'efforça de le chasser de ses pensées, mais il refusa de bouger. Elle le voyait dressé devant elle, les bras croisés, les yeux baissés sur elle, dans une attitude qu'elle connaissait bien, les lèvres pincées par la désapprobation. Ses yeux bruns et tressis, au point de n'être plus que des fentes, jusqu'au chaume hérissé de sa barbe qui trahissait son agacement. C'était peut-être un bon marin et un second prometteur. Pourtant, il possédait aussi un certain état d'esprit. Il avait rejeté le nom des Trelles, mais pas leur manière aristocratique. Elle respectait le fait qu'il ait gravi les échelons jusqu'à la position de second, mais elle trouvait irritant qu'il ne pût s'empêcher de se déplacer et de parler comme si commander était chez lui un droit de naissance. Cela avait peut-être été vrai autrefois, mais en rejetant son passé, il aurait dû aussi se débarrasser de ses façons orgueilleuses. Soudain, elle roula à bas de sa couchette et atterrit avec légèreté sur le plancher. Puis elle s'approcha de son coffre et ouvrit le couvercle. Là se trouvaient des affaires qui pourraient chasser toutes ses pensées déplaisantes de son esprit. Les babioles qu'elle avait achetées pour Selden et Malta l'agaçaient maintenant un peu. Elle avait dépensé du bon argent pour ses présents destinés à ses neveux, mais bien qu'elle les aimât beaucoup, elle ne voyait en eux pour l'instant que les enfants de Kyle et d'éventuels remplaçants. Elle déposa de côté la poupée aux habits élaborés qu'elle avait choisie pour Malta, ainsi que la toupie multicolore de Selden. En dessous, apparurent les coupes de soie rapportées de défense. La gris-argent était pour sa mère, la mauve pour Kefria. Encore en dessous se trouvait la soie verte qu'elle avait choisie pour elle-même.
Elle la caressa du dos de la main. Le tissu était doux, presque liquide. Elle sortit la dentelle crème qui devait le border. Dès son arrivée à Terrilville, elle avait l'intention de se rendre à la rue des tailleurs et de se faire confectionner une robe pour le bal de l'été par maîtresse Violette. Ses services n'étaient pas donnés, mais une soie de cette qualité méritait une couturière de talent. Althea désirait une robe qui mette en valeur sa longue taille et ses hanches rondes et lui permet ainsi d'attirer un partenaire de danse plus viril que le petit frère de Braschen. Pas trop serré à la taille, se dit-elle. Les danses du bal de l'été étaient vives et elle souhaitait pouvoir respirer. Un bas ample qui ondoierait au rythme des pas complexes, mais pas trop large afin de ne pas se prendre les pieds dedans. La dentelle encadrerait son modeste décolleté et lui donnerait peut-être l'air plus avantageux. Elle porterait ses cheveux noirs relevés cette année et se servirait de ses barrettes d'argent pour les maintenir en place. Elle avait les cheveux aussi rudes que ceux de son père, mais leur épaisseur et leur somptueuse couleur compensaient amplement ce défaut. Peut-être sa mère lui permettrait-elle enfin de porter les perles d'argent que sa grand-mère lui avait léguées. Officiellement, elles appartenaient à Althea, mais sa mère semblait rétive à renoncer à leur garde et donnait souvent leur rareté et leur valeur comme prétexte pour ne pas les arborer à n'importe quelle occasion. Elles iraient bien avec les boucles d'oreilles en argent qu'elles s'étaient offertes à Pont. Elle se redressa, secoua la soie, puis la plaqua contre elle. Le miroir de la cabine était petit et elle ne voyait que son visage aller au-dessus du tissu vert drapé sur son épaule. Elle lissa la soie sur laquelle ses mains rugueuses accrochèrent. Elle secoua la tête. Elle allait devoir les poncer tous les jours à la maison afin d'en effacer les cales. Elle adorait travailler sur la vivacia et sentir le navire réagir aux tâches des marins. Mais ces voyages coûtaient cher à ses mains et à sa peau, sans parler des meurtrissures et contusions de ses jambes. C'était, en deuxième position, la grande objection de sa mère au fait qu'elle navigue avec son père. Cela lui donnait un aspect affreux en société. La principale était qu'Althea aurait dû se trouver chez elle à s'instruire sur la gestion d'une maison et des terrains attenants. Le cœur serré, Althea se demanda si sa mère obtiendrait un jour gain de cause. Elle laissa tomber la coupe de soie et tendit les mains vers le haut pour toucher les épais madriers qui soutenaient les ponts de la vivacia. « Oh, mon navire, on ne peut pas nous séparer après toutes ces années, alors que tu es si près de t'éveiller. Personne n'a le droit de nous faire ça. » Elle murmurait, sachant l'inutilité de parler tout haut tant le bateau et elle étaient intimement liés. Elle aurait pu jurer sentir en réponse un frémissement de la vivacia. Ce lien qui nous unit était lui aussi voulu par mon père. C'est pourquoi il m'a fait embarquer alors que j'étais encore toute jeune, afin que nous parvenions à l'âge adulte en nous connaissant déjà. » Il y eut un nouveau frémissement des membrures du navire, si faible qu'un autre ne l'aurait pas perçu. Mais Althea connaissait trop bien la vivacia pour s'y laisser prendre. Elle ferma les yeux et livra à son bateau ses angoisses, sa colère et ses espoirs. Et en retour, elle éprouva la faible agitation de l'esprit, encore inconscient de la vivacia. Dans les années à venir, une fois que la vivacia se serait éveillée, c'est à elle que le navire préférerait s'adresser. Ce serait à sa main sur la barre que le bateau réagirait le plus vite. Althea savait que pour elle, il courrait avec plaisir devant le vent, qu'il combattrait des mers adverses de tout son cœur. Ensemble, ils rallieraient des ports de commerce et rapporteraient des cargaisons avec lesquelles aucune marchandise de Terrilville ne saurait rivaliser, des merveilles qui dépasseraient même celles des habitants du désert des pluies. Et, quand elle mourrait, ce serait son fils ou sa fille qui monterait à la barre, et non un des rejetons de Kyle. Elle s'en fit la promesse, tant à elle-même qu'au navire. Elle essuya ses yeux pleins de larmes, puis ramassa la soie tombée à terre. Il somnolait sur le sable. Somnoler, tel était le terme toujours employé par les humains, mais il n'avait jamais reconnu que son état pût être comparable au sommeil auquel il se laissait aller. Il ne pensait pas qu'une vive nef pût dormir. Non, même ce moyen d'évasion lui était interdit. En revanche, il pouvait se rendre quelque part ailleurs dans son esprit et s'immerger si profondément dans ce moment du passé que l'ennui mortel du présent battait en retraite. Il existait un épisode de son passé dont il se servait le plus fréquemment pour cela, bien qu'il ne fût pas absolument certain de ce qu'il se rappelait. Depuis qu'on lui avait pris ses journaux de bord, sa mémoire allait s'amincissant. Des brèches s'y ouvraient de plus en plus souvent, des endroits où il était incapable de relier les événements d'une année à ceux d'une autre. Il se disait parfois qu'il valait peut-être mieux s'en réjouir. Ainsi, somnolent au soleil, il décida de se rappeler une sensation de satiété et de chaleur. Le doux raclement du sable sous sa coque se traduisit par une impression similaire mais fugitive qui refusa de remonter clairement à la surface de son esprit. Il ne s'y efforça pas très fort. Il lui suffisait de se raccrocher à ce souvenir ancien où il se sentait rassasié, satisfait et au chaud. Des voix d'hommes l'en tirèrent.
« C'est ça ? Vous dites qu'il est là depuis combien de temps ? 30 ans ?»
Un accent faisait chanter les mots. « Jamélia », songea Parangon. Et de la capitale, Jamélia elle-même. Ceux des provinces du Sud avalaient les consonnes finales. Ils s'en souvenaient sans savoir d'où il tenait sa science.
« C'est lui ?» répondit une autre voix plus âgée. « Il n'y a pas 30 ans qu'il est là !» affirma la plus jeune. « Un bateau laissé à sec sur une plage pendant 30 ans serait criblé de trous de verre et couvert de bernacles. »«
Sauf s'il est en bois sorcier !» répliqua son interlocuteur. « Les vives nefs ne pourrissent pas, Minxley, et elles n'excitent pas l'appétit des bernacles ni des vers foreurs. C'est une des raisons qui rendent ces navires si chers et si recherchés. » Ils durent des générations entières sans les travaux d'entretien de la coque qu'exigent les autres bateaux, ou à peine. Sur les mers, ils veillent à leur propre sauvegarde, ils avertissent l'homme de barre s'ils aperçoivent un danger sur leur route. Certains même naviguent presque seuls. Quel autre type de navire peut vous prévenir qu'une cargaison s'est déplacée ou que vous l'avez trop chargée? Un bateau en bois sorcier est une merveille à voir en mer. Quel autre bateau ?
D'accord. Alors dites-moi pourquoi on a tiré celui-ci à sec et qu'on l'a abandonné ?
Le plus jeune avait un ton extrêmement sceptique. Minxley ne faisait pas confiance à son guide, cela était évident. Parangon eut presque l'impression de voir l'aîné des deux hommes hausser les épaules.
Vous savez quelles superstitions sont les marins ? Or, ce navire a une réputation de malchance, de grande malchance. Autant que je vous le dise tout de suite, parce que quelqu'un d'autre s'en chargerait de toute façon. Le Parangon a tué tout un tas d'hommes, y compris le propriétaire et son fils.
Fit Mingsley d'un ton pensif. Ma foi, si je l'achète, ce sera pas pour le remettre à la mer. J'espère bien d'ailleurs ne pas payer le prix d'un navire. Pour être tout à fait franc, c'est le bois qui m'intéresse. J'ai entendu raconter bien des choses étranges à ce propos, et pas seulement que les vives nefs s'éveillent un jour et se mettent à bouger et à parler. Ça, je l'ai vu dans le port. Un étranger comme moi n'est pas le bienvenu sur la digue nord, là où s'amarrent les vives nefs, mais je les ai vus se déplacer et je les ai entendus parler. À mon sens, si on peut faire ça avec une figure de proue, on doit y arriver avec une sculpture plus petite du même bois. Avez-vous une idée de ce qu'on paierait pour un prodige pareil à Jamélia ? Une sculpture qui bouge et qui s'exprime ?
Non, répondit l'autre d'un ton hésitant. Le plus jeune éclata d'un rire méprisant qui évoquait un reniflement.
Bien sûr que non ! Ça ne vous est jamais venu à l'idée, n'est-ce pas ? Allons, mon vieux, soyez franc. Pourquoi ne l'a-t-on jamais fait jusqu'ici ?
J'en sais rien.
L'homme avait répondu trop vite pour être crédible.
Tiens donc, répliqua Minxley d'un ton sceptique. Depuis tout le temps qu'existe Terrilleville sur les rivages maudits, personne n'a jamais pensé à vendre du bois sorcier à d'autres qu'aux résidents de la ville ? Et seulement sous forme de bateau ?
Où est la trappe ? Il faut que l'objet soit grand comme ça pour s'éveiller.
Doit-il rester immergé dans l'eau de mer un certain temps?
Quoi?
Ça ne s'est jamais fait, c'est tout.
Terrilville est une cité bizarre, Mingsley. Nous avons nos propres traditions, nos propres contes, nos propres superstitions.
Quand nos ancêtres ont quitté Jamelia, il y a bien des années, pour essayer de coloniser les rivages maudits, ma foi, la plupart sont partis parce qu'ils n'avaient pas le choix. Certains étaient des criminels, d'autres avaient déshonoré ou ruiné leur famille, d'autres encore n'étaient pas dans les petits papiers du gouverneur lui-même. Ça a presque été un exil. On leur a dit que, s'ils survivaient, chaque famille pourrait s'approprier 200 lefers de terre et verrait son passé amnistié.
Le gouverneur nous a aussi promis de nous laisser en paix, avec le monopole du commerce sur tout ce que nous pourrions trouver à marchander.
En retour, il exigeait 50% de nos profits. Ce marché a bien fonctionné pendant des années.
Et aujourd'hui, c'est fini.
Mingsley éclata d'un rire moqueur.
Comment pouvait-on croire qu'un tel marché tiendrait éternellement?
Les gouverneurs sont humains, et le gouverneur Cosco trouve le contenu de ses offres trop réduit pour les habitudes de plaisir qu'il a acquises en attendant la mort de son père. Les herbes chalcédiennes ne sont pas données, et, une fois qu'on s'y est accoutumé,
ma foi, celles de moindre qualité ne s'y comparent pas.
C'est pourquoi il a vendu, à mes amis et à moi, de nouvelles concessions de commerce et de terres pour Terrilville et les rivages maudits. Nous nous y sommes rendus, et vous nous avez très mal reçus. Vous vous comportez comme si nous venions vous voler le pain de la bouche, alors que, chacun le sait, les affaires engendrent les affaires. Tenez, regardez-nous. Ce bateau pourri ici depuis 30 ans, du moins le prétendez-vous, s'en servira à rien, ni à son propriétaire, ni à personne. Mais si je l'achète, le propriétaire en obtiendra un bon prix. Vous vous taillerez vous-même sans doute une généreuse commission, et moi, j'aurai une bonne quantité de ce mystérieux bois sorcier.
Mingsley se tut, et Parangon entendit le silence grandir entre les deux hommes. Au bout d'un moment, Mingsley reprit d'un ton mécontent.
« Mais j'avoue être déçu. Je croyais vous avoir entendu dire que le navire s'était éveillé. »
« Je pensais qu'il allait nous parler. Vous n'aviez pas mentionné qu'il avait été mutilé. En est-il mort ?»«
Le parangon ne s'exprime que quand il en a envie. Mais ça m'étonnerait qu'un seul mot de notre conversation lui ait échappé. »«
Est-ce exact, le bateau ? As-tu entendu tout ce que nous avons dit ?»
Parangon ne vit pas de raison de répondre. Au bout d'un moment, le plus jeune des deux hommes émit un bruit de dégoût, et ses pas décrivirent un cercle lent autour du navire, tandis que son compagnon le suivait plus lourdement. Peu après, Mingsley déclara.
« Eh bien, mon ami, je crains bien de devoir rabaisser substantiellement mon offre pour le bateau. Mon estimation première se fondait sur l'idée que je pourrais décrocher la figure de proue, l'emporter à Jamelia et vendre le bois éveillé pour une somme considérable, ou plus probablement en faire don au gouverneur en échange de plus grandes concessions de terre. Mais dans les conditions présentes, bois sorcier ou non, voici une sculpture singulièrement laide. Qu'est-ce qui a pris à l'artiste de tailler ce visage comme un coup de hache?
Peut-être un autre artisan pourrait-il lui donner un aspect plus plaisant.
Peut-être, concéda son compagnon mal à l'aise. « Mais je ne sais si ce serait avisé. Je croyais que le parangon vous intéressait en tant que tel, non comme source de bois sorcier. Et vous devez ne pas oublier, comme je vous en ai prévenu, que je n'ai pas encore soumis au lieu de chance l'idée de le vendre. Je ne souhaitais pas aborder le sujet avant d'être sûr de votre intérêt. »«
Allons, Davad, vous ne me croyez tout de même pas si naïf. » Qu'est-ce donc que ce bateau, sinon une carcasse échouée? Les propriétaires seront sans doute soulagés de s'en débarrasser. Si ce navire était en état de naviguer, il ne serait sûrement pas laissé ainsi à l'abandon sur une plage.
Un long silence. À mon avis, rien ne saurait forcer même les Lutchance à le vendre s'il devait être découpé en morceaux.
Un silence.
Mingsley, je vous préviens. « Ne mettez pas votre projet en pratique. Acheter un navire et le réarmer est une chose. Ce que vous évoquez en est une autre. Aucun des premiers marchands
n'acceptera de commercer avec vous si vous agissez comme vous l'entendez.
Quant à moi, je serai totalement ruiné.
Il vous faudra donc faire preuve de discrétion là-dessus quand vous présenterez mon offre, tout comme j'ai eu mon intention d'acheter cette coque.
Mingsley prit un ton condescendant.
Je sais que les marchands de Terrilleville ont de nombreuses superstitions bizarres que je n'ai pas l'intention de railler. Si mon offre est acceptée, je remettrai le navire à flot et le ferai remorquer à l'écart avant de le démanteler.
Loin des yeux, loin de l'esprit, comme dit le proverbe. Cela vous satisfait-il ?
Il faut bien, grommela l'autre, il faut bien.
Allons, ne prenez pas cet air morose. Venez, retournons en ville, je vous invite à dîner chez Souska. Avouez que c'est une belle proposition, car je connais les prix qu'on y pratique et je vous ai vu manger.
Mingsley éclata de rire, très content de son propre humour. Son aîné ne l'imita pas.
Ensuite, ce soir, vous vous rendrez chez les Lutchance et vous leur présenterez mon offre, discrètement. Tout le monde y trouve son compte. De l'argent pour les Lutchance, une commission pour vous, une vaste provision de bois rare pour mes commanditaires. Indiquez-moi où se trouve la malchance dans tout cela, Davad.
Je ne le puis pas, répondit l'intéressé à mi-voix. Mais je crains que vous ne la découvriez vous-même. Qu'il s'exprime ou non, ce navire est conscient. Et il possède son propre esprit. Essayez de le découper en morceaux, et je suis sûr qu'il ne gardera pas longtemps le silence.
Le plus jeune éclata d'un rire joyeux.
Vous ne dites ça que pour piquer mon intérêt, Davad, je le sais bien. Allons, rentrons en ville, chez Souska. Certains de mes commanditaires sont très impatients de faire votre connaissance.
Vous aviez promis de rester discret, s'exclama son aîné.
« Oh, mais je le suis resté, je vous l'assure. Cependant, vous n'espérez tout de même pas qu'on m'avance de l'argent sur ma seule parole. Ces gens veulent savoir ce qu'ils achètent et à qui. Mais ils sont tous très discrets, je vous le promets. »
Parangon écouta longtemps décroître le bruit de leurs pas, qui finit par se perdre dans celui plus présent des vagues et les cris des mouettes.
« Découpé en morceaux. »
Parangon prononça la phrase à voix haute.
« Ma foi, voilà qui n'a pas l'air agréable. D'un autre côté, ce serait au moins plus intéressant que de rester inerte sur cette plage. Et cela me tuera peut-être. Peut-être. »
Cette perspective lui plaisait. Il laissa ses pensées dériver à nouveau et jouer avec cette idée nouvelle. Il n'avait rien d'autre pour s'occuper l'esprit.